Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est au creux d'une petite vallée blottie entre deux massifs forestiers que nous retrouvons Simon qui bataille becs et ongles pour vivre de sa petite exploitation maraîchère.
Simon Lefebvre, je suis installé sur la commune de Sylvanès en maraîchage biologique depuis 3 ans. C'est ma 3e année. Là. Entre Fayette et Sylvanès, mais c'est la commune de Sylvanès.
Le petit cours d'eau là qui coule à côté,
c'est le Cabotte. C'est un affluent d'un affluent du Dourdou. Qui se jette dans la Nuéjou, la Fayette, qui elle se jette dans le Dourdou.
Dans le Dourdou.
Un peu plus loin.
Qui se jette dans le Tarn, qui se jette dans la Garonne, qui se jette dans l'Atlantique. Donc, qu'est-ce que tu fais comme activité afin de ton exploitation ?
Alors l'idée c'est maraîchage diversifié, donc une bonne trentaine de légumes en comptant après avec les variétés différentes et tout ça. Et l'idée ça serait sur toute l'année, pour l'instant j'y arrive pas encore à faire la grande boucle.
Produire sur toute l'année ?
Eh ben j'aimerais bien, après c'était l'idée de départ.
Ouais.
C'est en train de changer un peu mais,
d'accord,
mais voilà. Et puis de toute façon pour l'instant j'ai pas encore réussi à...
Avant d'être ici, tu faisais déjà agriculteur ?
Pas du tout. Ah. Alors moi, à la base, j'ai fait pas mal d'études. Alors moi, déjà, je suis du Nord-Pas-de-Calais. Et je suis arrivé ici en 2016, à Camarès. Et donc, il y avait déjà l'idée d'un projet, d'une installation agricole. Mais l'idée a démarré, on va dire, il y a une petite dizaine d'années, où avec un copain où on habitait dans le centre de la France, on avait l'idée de monter... un collectif agricole ou de rejoindre un collectif agricole. Et donc le copain lui se formait à la boulange. Moi je me formais au maraîchage et l'idée c'était de dire ensuite on part retrouver des gens qui font ça déjà en collectif et soit on prend des idées pour et on trouve des gens pour monter un collectif, soit on rejoint un collectif déjà existant. Le fait est que le copain est parti sur d'autres directions au cours de son truc et moi j'ai passé mon BPREA en 2015. Et voilà, en fait, ça s'est très bien passé. Du coup, ça a été un peu la découverte du monde agricole.
Quoi, ouais.
Avec,
et la confirmation, peut-être, que tu avais fait un choix qui était bon.
Et bien ça, du coup, avant de faire le BPREA, j'avais quand même fait du porte-à-porte chez des maraîchers. Et pendant un an, j'ai travaillé chez des maraîchers, chez deux maraîchers différents, à aller bosser chez eux 2 jours semaine contre le gîte et le couvert et de découvrir. Quoi. Du coup, ça, déjà, à ce moment-là, j'ai eu envie de faire ça. En parallèle avec le copain, du coup, on avait récupéré pas mal de petites parcelles que des particuliers nous confiaient. Et du coup, on avait commencé à produire pour nous, le collectif où on habitait. Et puis on envoyait aussi la nourriture sur Paris en taxi-train. Donc les courges, les patates, tous les trucs qui pouvaient s'envoyer, on déposait ça dans les wagons de train. Et ça partait à Paris et c'était récupéré par des gens en squat à Paris qui avaient besoin de bouffe. Et
ah ouais, d'accord.
Pour refaire leur cantine.
Ah ouais, c'est sympa comme concept.
C'était un concept qui nous allait bien et tout
ça. Mais c'était rentable ?
Ah bah c'était pas rentable du tout, c'était pas du tout économique à ce moment-là. Hein. C'était vraiment, on se formait, on découvrait et en même temps on alliait nos convictions politiques à des activités qui nous plaisaient aussi. Et, enfin c'était un moyen de soutenir des gens.
Et avant de te lancer dans la culture, tu faisais quoi ? Tu t'es formé dans quoi au départ ?
Moi je suis animateur nature. Donc j'ai fait pas mal d'animations avant ça déjà, j'ai fait pas mal d'animations et puis formation d'animation avec le BAFA quoi. Puis j'ai fait pas mal d'études en sciences de l'éducation, en sociaux. Et voilà, donc j'ai...
Et t'as travaillé là-dedans dans ces milieux-là en fait.
Ouais, j'ai bossé pour la ville de Lille comme animateur nature et pour des assos. Et,
À Lille. Nature à Lille. Et c'est même très bétonné là-bas.
C'est très bétonné, ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a des sous pour faire de l'animation nature, en fait. On se rend compte que là où il y a des sous pour faire de l'éducation à l'environnement, c'est là où il n'y a plus trop d'environnement.
Il
n'y
a plus de nature et tout.
Et à ce moment-là, grosse perte de sens en fait, pourquoi je vais aller essayer de faire du lien entre les gamins et la nature dans un endroit où tout est fait de toute façon pour qu'il n'y ait plus de lien. C'était un peu difficile pour moi de donner du crédit à des politiques qui faisait l'inverse de ce qu'il disait vouloir faire. Quoi.
Ouais. Ouais.
Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter.
Et alors, quand tu t'es lancé dans l'agriculture, pourquoi tu as choisi le maraîchage, particulièrement ? Et pourquoi pas de l'élevage ou autre chose encore ?
Eh ben, pourquoi le maraîchage ? Parce que je pars avec peu de moyens, déjà, à la base. Donc, le maraîchage, c'est possible de... c'est possible de commencer avec un peu de terrain et un peu de, avec beaucoup de travail, mais sans trop d'argent au départ, en tout cas. Et contrairement à de l'élevage, où là tout de suite c'est quand même des infrastructures, enfin il faut. Et puis moi voilà, j'ai déjà une petite passion avant, de par mes métiers précédents et tout ça, autour de la botanique, autour de ces choses-là, et du coup ça s'est fait assez naturellement en fait.
Et on fait pousser le même genre de légumes quand on est dans la Beauce ou quand on est ici?
On peut faire pousser les mêmes styles de légumes, mais après on les fait pas pousser aux mêmes périodes. On a peut-être des calendriers qui sont plus serrés dans la Beauce qu'ici. Et voilà, par contre, on a beaucoup plus d'eau. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu...
Ça pousse plus facilement peut-être.
Voilà, après on s'adapte et on adapte nos calendriers de semis, de plantation au climat, quoi.
Bon, le boulot change pas tellement en fait.
Le boulot change pas tellement. Non. Voilà. En termes de production. Après, après sur tout ce qui est commercialisation, c'est la même chose en termes de...
Ah ben justement, puisque tu y viens, ce que tu produis, comment tu le vends aujourd'hui ?
Eh ben aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une place sur le marché de Sainte-Afrique. Donc je vends mes légumes là-bas le samedi matin. Voilà, je suis sur la place de la mairie.
Tu fais que le marché pour vendre ?
Eh ben le marché et après de la vente directe. Ici sur la ferme, il y a un petit magasin, donc ça j'essaye quand même de pouvoir fournir le magasin, mais c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est toujours il y a une logistique sans chambre froide qui est un peu compliquée. En tout cas ici, ou sinon des commandes de particuliers sur Camarès.
Et le marché, t'aimes bien faire ça, le marché ou...
Ouais, la j'aime relation beaucoup avec le marché. Ouais. Ouais. Ça faisait partie des trucs aussi au début, quoi. J'avais pas envie de... La vente directe, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est aussi ce moment-là où on peut parler du métier avec les gens. C'est aussi ce moment-là où les gens se rendent compte des difficultés qu'on peut rencontrer. Et puis c'est un moyen aussi de sortir de sa ferme, quoi, quand on fait des semaines à 80 heures en pleine période de plantation et tout ça. Là, c'est un moyen aussi de il se passe des choses aussi en dehors, de prendre conscience de tout ça.
Ouais, et puis voir du monde.
Voir du monde et...
Et les autres agriculteurs aussi, peut-être ?
Et de recroiser d'autres agriculteurs. Ouais. Bon, ça, après, moi, ici, j'ai la chance, sur la ferme, on est trois paysans. Donc, il y a Laurent qui est en brebis viande. Il y a Daniel qui est arboriculteur. Donc, lui, il fait des pommiers et des petits fruits pour faire des jus. Et il fait des huiles aussi, des huiles de noix, des huiles... Enfin, voilà, et il fait pas mal de préparations à base de châtaigne aussi. Donc, déjà, on est trois sur la ferme. Donc, ça, c'est vraiment une chance que j'ai, quoi.
Et comment t'as fait pour trouver cette ferme ?
Eh ben ça n'a pas été facile.
Ah.
Ça n'a pas été facile parce que l'accès au foncier c'est quelque chose de très compliqué parce que soit il faut avoir énormément d'argent et même des fois sans avoir énormément d'argent les fermes qui sont proposées c'est pas forcément des fermes qui correspondent à un petit projet maraîcher. Moi j'ai pas besoin de plus d'un hectare. Donc trouver un hectare avec une maison d'habitation sans que ça coûte trop cher c'est vraiment compliqué.
Ouais.
Au départ, c'était le projet, puis je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible parce que j'ai pas les moyens. Et du coup, je me suis assez vite orienté vers le fermage en habitant ici déjà, hein, parce que je pense que ça aurait pas été possible à distance de trouver la ferme. Donc, c'est vraiment en habitant ici et par bouche à oreille, j'ai fini par rencontrer Laurent. Et Laurent m'a proposé ce terrain-là, de 9000 m² là sur sa ferme. Et donc ça, c'est vraiment un moyen pour s'installer qui est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Ça veut dire ça limite énormément les investissements et ça permet de s'installer avec pas grand-chose. Et en même temps, ça permet de bénéficier aussi de l'expérience des paysans qu'il y a sur place. Laurent a des machines que moi, je pourrais jamais me payer pour le nombre d'heures que je vais les utiliser en plus. C'est complètement
ça serait
pas logique, ça serait fou. Ouais. Et du coup, là, je peux profiter quand même des machines, des savoir-faire et de l'expérience et du réconfort aussi d'être avec d'autres gens quand, dans les moments où ça va pas bien et du coup ça c'est une grosse chance.
Et donc 3 ans que tu es installé ici me disais-tu en maraîchage.
Ouais.
Est-ce qu'aujourd'hui tu en vis bien?
Aujourd'hui j'en vis pas. Moi je vis du RSA.
Tu dégages pas de salaire pour toi?
Non, pour l'instant je dégage aucun salaire. Ce que je dégage là, ça me permet déjà toutes les charges de fonctionnement, les charges de structure. Donc mon loyer, mes assurances, mon gasoil et tout ça, donc ça me paye ça. Et après, ça me paye aussi mes charges opérationnelles, donc ce qui va me permettre de redémarrer l'année prochaine. Ça va me payer mes semences, mon terreau, toile tissée si j'ai besoin de toile tissée, mes bâches de serre si j'ai besoin de bâches de serre. Et ça me permet de mettre un petit peu de sous de côté pour éventuellement un jour m'acheter un nouveau motoculteur ou des choses comme ça. Pour l'instant, c'est ça.
Bon, là, pour l'instant, c'est difficile pour toi. On ne désespère pas que les choses vont s'améliorer incessamment sous peu. Je ne sais pas, ça t'est déjà arrivé, des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture ou dans le maraîchage plus particulièrement. Est-ce que tu leur conseilles ce métier ?
Ah, moi, je pense que tous les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, il faut y aller. Enfin, il faut le faire, hein. Ouais. Pas de souci. Je pense que ça manque de paysans. Et voilà, par contre, il ne faut pas se faire d'illusions sur... Voilà, la petite image d'Épinal du paysan en contact avec la terre, dans la vie simple, qui se pose pas trop de questions et qui vit sereinement.
Des crocs voilà, aux pieds,
ouais, avec une vie tranquille, ouais. C'est une illusion.
Oui, c'est une vie de labeur quand même.
Oui, c'est du travail. Après le travail, quand on arrive à faire une belle récolte... À la fin du processus de production, c'est la petite fierté et tout ça, c'est des choses qui valent largement le coup d'être vécues. Les moments où on foire ses cultures, où on se laisse déborder complètement par les mauvaises herbes.
Ou un aléa climatique.
Et ouais, ou des aléas climatiques, ou une attaque de pucerons. C'est des trucs qui peuvent vite faire du mal au moral, mais il ne faut pas désespérer. Et voilà.
Il ne faut rien lâcher.
Et non, et plus il y aura de petits paysans, mieux ce sera. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plein de maraîchers dans le secteur et sur petite surface, là, qu'on puisse s'entraider aussi, qu'on puisse réfléchir ensemble à de la commercialisation en commun, qu'on puisse réfléchir ensemble à du matériel en commun, qu'on puisse réfléchir ensemble à de l'entraide.
C'est quand même assez fou, quand même, l'agriculture, où il y a pas mal de gens qui bossent comme des bossus.
Ouais.
Et qui dégagent pas un salaire, qui sont obligés de stagner quelque part, parce que le système est fait d'une telle façon que il faut bosser comme un fou pour pas grand chose. Et ça met en danger en fait toute l'agriculture, on va dire saine, la petite agriculture.
Je pense que si on voulait soutenir les petites fermes, ça c'est clairement une volonté politique. C'est pas une histoire de faute à pas de chance. Si on voulait installer plus de monde dans les campagnes, si on voulait faire vivre les campagnes plus que ça, si on voulait remplir les écoles, tout ça c'est lié aussi. En fait, oui, clairement il y a une volonté politique qui n'est pas là pour l'instant. Là, le modèle agricole qui nous est vendu, c'est pas celui-là. Et on le voit bien, hein, même en discutant un peu avec les paysans autour, c'est toujours plus d'investissements, c'est toujours... Moi j'ai tendance à dire que l'agriculteur, ça a été c'est les premiers Uber, en fait. Ça veut dire que c'est des gens qui portent toute la... Ils sont leur propre patron, c'est eux qui assurent tous les investissements. Par contre, à la fin, c'est pas eux qui vont décider de comment ça va se vendre. Moi non, parce que je fais de la vente directe, donc ça j'arrive encore à gérer mes prix et là-dessus, avec les autres maraîchers, on arrive quand même à essayer de maintenir un prix de vente satisfaisant, qui correspond à plus ou moins à notre charge de travail. Mais sinon, pour tous les autres qui sont pas en vente directe, c'est Uber, quoi.
Est-ce que toi, t'as une idée de ce que va devenir l'agriculture? Aujourd'hui, elle est dans cet état-là, si je puis dire. Quel chemin là, on est en train de prendre là? Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers l'agro-industrie? Est-ce que les toutes petites structures arriveront à garder leur place? Est-ce qu'il y aura des clients pour les tout petits et des clients pour les très gros?
Bah, moi, c'est un peu le constat que je fais là ces derniers temps. C'est que une petite agriculture comme la mienne, où je peux maîtriser mes prix, etc., etc., ça va s'adresser à une certaine clientèle qui s'investit aussi pour que cette paysannerie-là existe, mais qui est quand même une clientèle qui a des moyens, ou en tout cas qui a les moyens de consacrer une part de son budget à l'alimentation. Et après, il y aura une agriculture industrielle pour tous les autres, quoi.
Pour nourrir le monde.
Pour nourrir le monde. Et moi, je pense qu'il faut quand même rester vigilant à ça. Enfin... Moi, en tout cas, là, à l'heure actuelle, ma situation ne me satisfait pas du tout de me dire « Ouais, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, ça va sauver le monde et ça va permettre aux gens de manger bien et tout ça. » Non, c'est pas vrai. Enfin, ça, je pense que j'y crois plus du tout, là. J'ai l'impression que ça va me permettre à moi de vivre de mon agriculture parce qu'il y a une certaine partie de la population qui pourra se payer mes produits. Mais par contre, là, en dehors de cette vallée-là, si on sort, si on s'éloigne un petit peu, et j'ai pas l'impression que ça prenne cette direction-là globalement, en fait. Même au contraire. J'arrive pas à être optimiste. J'ai envie, mais j'arrive pas à être optimiste non plus. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'installent et...
Il faut repeupler les campagnes.
Il faut repeupler les campagnes. Et pour moi, ça sera pas juste par de la consommation que ça va changer. En fait, la consommation, elle nous emmène à, voilà, à un truc de niche qui est très bien, hein, qui est très beau, mais en fait, qui empêche pas du tout le reste de se dégrader. Je pense qu'il y a des luttes amenées à des endroits un peu plus haut que juste la consommation.
Thank you.
là, tu m'amènes sur tes serres.
Ouais, alors il y a les serres et les jardins.
Et les jardins.
Il y a tout là, du coup, moi je loue 9000 m² de terrain. Mmh. 9000 m² de terrain, je dois en cultiver. Si on enlève les allées, il y a 6 jardins. 6 jardins de 500 m² à peu près. Donc il y a à peu près 3000 m².
Voilà. D'accord, tu fais des rotations ?
Après, ouais, je fais des rotations. Et,
mais les serres, elles bougent pas ?
Les serres bougent pas. Ouais. Là, il y a 2 petites serres de 150 m² chacune. Mm-hmm. Et voilà, du coup, je travaille en. Enfin, l'idée, hein. Il y a la théorie et après, il y a la réalité. l'idée, c'est planche permanente. Ouais. Donc, c'est des planches que je vais. Enfin, qui sont marqués au sol, soit par des petites buttes, soit... Bon, pour l'instant, je suis avec des ficelles pour me permettre de distinguer les planches des passe-pieds, mais... Ouais. Et donc, mais l'idée, c'est planche permanente. Donc, c'est des planches sur lesquelles on va jamais marcher, on va éviter de tasser, on va avoir un travail de sol minimum, mm-hmm. avec beaucoup de couverts. Donc, soit couverts, paille, j'ai un paysagiste aussi qui me dépose toutes ces tontes, mm-hmm. ces déchets de tontes. Du coup, je couvre beaucoup avec ça et après, je couvre aussi avec des bâches plastiques. C'est pas l'idéal, ouais. mais ça m'évite beaucoup de travail de désherbage. Mm-hmm. Et sous la bâche plastique, en fait, il y a quand même énormément de vie. Et du coup, voilà, l'idée, c'est quand même d'entretenir la vie du sol. Planches permanentes, toutes standardisées, donc elles font toutes 25 mètres de long, ce qui me permet d'avoir les mêmes longueurs de goutte à goutte, les mêmes longueurs de tuyaux pour l'aspersion, les mêmes longueurs de filets, de pédicettes, donc ça, c'est les voiles de forçage. Ça, je peux tout utiliser où je veux ou quand j'en ai besoin. Je ne suis pas obligé de rabouter des bouts de goutte à goutte ou de couper. Ou de
faire du rafistolage.
C'est ça. Ouais. Et l'idée, c'est de se simplifier un peu la vie comme ça.
Et la terre est assez claire ici.
Alors ici, on n'est pas dans le Rougier. Oui. On est vraiment à la frontière, on n'est pas dans le Rougier. On est vraiment... terre très argileuse quand même.
Ouais. Ça ne va pas être facile, ça.
L'argile, ça a quand même beaucoup d'avantages en maraîchage.
Ça retient l'eau.
Ouais, ça retient bien l'eau et puis ça retient aussi tous les éléments minéraux, quoi.
Mais c'est embêtant pour faire pousser les légumes racines, plus ou moins.
Ça peut être embêtant, mais du coup, par le long travail du sol, par l'apport de matière organique, d'année en année, ça s'améliore. Mmh. Et moi, j'y vois beaucoup de positifs. Surtout que jusque-là, j'ai pas encore installé d'irrigation, donc pour moi, c'est très bien là.
D'accord.
Ça, c'est le projet pour cet hiver, c'est d'installer l'irrigation. Là, ici, il y avait les légumes de printemps. Bon, là, maintenant, tu vois, normalement, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Normalement,
pourquoi il faut pas faire ? Parce que ça pompe de l'énergie, ces arbres qui repoussent ?
Non, c'est que ça fait beaucoup de graines, surtout. Ça a grainé de partout, là. J'ai tout laissé en friche, un petit peu. Ouais. Mon motoculteur est tombé en panne cet été, donc tout ce que j'aurais dû broyer, j'ai pas pu le faire. Et donc là, maintenant, j'attends. Dans un mois, je passe tout en engrais vert pour l'hiver. Et voilà. Donc là, Laurent va venir m'aider avec son tracteur.
Quel genre d'engrais vert tu comptes utiliser ?
Moi, je vais utiliser une févrole et puis une céréale, genre triticale ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc ici, il y a eu des pommes de terre collectives d'un groupe de copains qui sont venus faire leurs patates collectives ici, parce qu'il y a les machines qui avaient la possibilité d'irriguer quand même. J'ai une pompe et tout ça, donc voilà, c'était quand même plus pratique pour eux. Là-bas, c'était mes pommes de terre à moi. Et ici, on est sur jardin d'été, donc avec j'ai mis des aubergines, des piments, des poivrons, des courgettes. Il y avait des concombres que j'ai déjà arrachés. Il y avait des tomates qui ont pris le mildiou, parce qu'ici, c'est pas couvert.
Ça, c'est le mildiou quand elle noircisse comme ça.
Ouais,
donc trop d'humidité.
C'est l'humidité, les variations de température. C'est un champignon. À partir du moment où.
Parce que les aubergines, elles sont belles encore.
Mais les aubergines sont magnifiques dehors. C'est la première année que j'ai des aubergines comme ça.
Ah ouais, elles sont belles.
Donc, et puis encore à cette période-ci. Ouais.
Et ça, c'est des piments ou des poivrons ?
C'est des piments.
C'est des piments. Des piments doux ?
C'est des piments forts.
Forts ?
Ouais, ils sont bien sûr.
Et alors, ça s'écoule facilement, les piments ?
Pas du tout. Ah. Non, je le fais parce que j'aime bien, mais après, il faut faire des transfos, quoi. Oui. Je fais du piment au vinaigre.
La mise en bocal ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Et puis, il y a les courges aussi à côté. Donc ça, pareil, les courges sous bâche.
Alors, butternut.
Là, il y a butternut, potimarron, courge rouge vive des tempes, de la musquée de Provence, de la longue de Nice, de la courge spaghetti, il y a de la potimarron vert Hokkaido, et puis il y a de la bleue de Hongrie aussi, de la sucrine du Berry, et puis là, j'ai fait des courges à graines pour des copains qui cherchaient à avoir des graines pour faire leur pain.
Du pain avec des graines de courge.
C'est ça.
Ah tiens donc. La serre.
Donc la serre avec ce qui reste là, poivrons, tomates, concombres. Ouais. Et puis à côté il y a aubergines, tomates encore et courgettes.
D'accord, donc tu fais un système comme quasiment tout le monde fait ça dans les serres. des fils bleus là, d'agriculteurs
qui, bah, de la ficelle qui où j'accroche mes plants, en tout cas pour les plants comme les concombres ou les tomates. Uh-huh. J'accroche mes plants, et ce qui évite qu'elles traînent au sol, et puis ça facilite la récolte. Et puis,
Tu fais un arrosage au goutte à goutte.
Et bah là pour l'instant j'ai pas de. J'ai toujours pas d'aspersion parce que j'ai pas mon irrigation. Donc, ouais. Donc là je remplis des cuves à la pompe. Mmh. Donc depuis la rivière, je remplis des cuves et depuis les cuves je fais couler le goutte à goutte. Enfin en gravitaire quoi. Ce qui n'est pas satisfaisant du tout pour l'instant.
Il est quand même loin le cours d'eau là.
Il a 70 mètres là, 80 mètres.
D'accord, il faut une bonne pompe qui marche bien bien.
Une bonne motopompe, ouais, mais ça va, c'est pas. Ouais. C'est pas le plus compliqué quoi. Après le plus compliqué c'est plus d'avoir de la hauteur pour mes cuves, pour avoir suffisamment de pression dans les gouttes à gouttes.
Ouais.
Donc voilà, mais cet hiver on installe l'irrigation et du coup je vais même pouvoir mettre de l'aspersion dans les serres.
Et dans ces serres, tu fais pousser les mêmes choses chaque année ou tu essaies de varier?
En fait là, moi les serres, là, elles me servent. Normalement l'idéal serait aussi que je puisse tourner en hiver et du coup en hiver j'aurai tout ce qui est légumes feuilles. Et tout ça, mais là, là c'est essentiellement tomates, aubergines, poivrons, concombres.
Mais ça sonne bien, ça. Ça part bien.
Bah, c'est les légumes qu'il faut faire en été, quoi. Ouais. Si t'as pas ces légumes-là en été, il vaut mieux pas faire les marchés, quoi.
Ouais. Et alors, je sais pas si tu m'as dit, mais t'es en bio ?
Je suis en bio.
Un bio déclaré ?
Je suis en bio, labellisé, Ecocert et tout le patacoufin, ouais. Donc je paye pour me faire contrôler, ouais.
C'est ça. Ça, c'est cool.
Ouais. Du coup, après, si tu veux, on peut continuer un peu. Là, il y a la pépinière là, que j'ai installée, du coup, ça, cette année. Et du coup, là, c'est là où je vais pouvoir cultiver, faire mes plants. Faire tous mes plants. Et là, il y a 150 mètres carrés. Il y aura des tables chauffantes là-bas. Ouais. Et puis ici, des tables pour pouvoir arroser tranquillement. Et puis encore de l'espace pour poser des plants. Et... Normalement, là, je vais gagner en confort, parce que jusque-là, j'étais dans la serre que Daniel, du coup, mon voisin paysan là, de la ferme, me prêtait une de ses serres de l'autre côté de la rivière. Mmh. Et là, je vais lui rendre sa serre. Et puis, s'il y a plus d'espace, s'il y a plus de lumière aussi, ça va être un peu mieux pour les plants. Ouais.
Et bon, là, pour l'instant, à peine le quart de la serre est occupé, on va dire le tiers, avec tes tables.
Ouais.
Et le but, c'est d'arriver à quasiment remplir la serre.
Ah bah de toute façon, en période des semis, là, au mois d'avril, là, ça sera rempli ici. Là.
D'accord.
Ça sera rempli de plants, parce que j'aimerais bien aussi faire un peu de plants pour vendre des plants aussi. Mmh. Il y a pas mal de jardiniers amateurs ici dans le coin, et du coup, il y a un marché, on va dire.
C'est assez rentable de vendre des plants?
Ouais, parce que et puis c'est toujours pareil, là, c'est vraiment un moment, là, pour le coup, quand tu fais de la vente directe de plants, là, tu te retrouves avec des passionnés du jardin aussi, et du coup, il y a aussi des échanges super sympas à avoir avec les gens. Et après, oui, de toute façon, il y a un marché. Et donc ça, c'est le petit jardin.
Voilà, une troisième partie.
Là, ici, du coup, il y a ma copine qui est venue planter un peu de plantes aromatiques et tout ça.
D'accord.
Et voilà, donc ça, c'est son espace. Et puis après, il y a encore les haricots secs, là.
Ah oui, qui pendouillent.
Avant qu'il pleuve trop.
Ouais. Haricots secs, t'en fais quoi après? Tu les... C'est les haricots blancs, type?
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Pour faire du cassoulet ou ce genre de...
C'est ça.
De mets
délicieux. Des houmous ou des pâtés végétaux ou des trucs comme ça, ouais.
Après, là, on a
des plantes sauvages. Et après, là, on a de la mauvaise herbe, pareil. Hein, voilà. Pas de broyeur, donc là, elle s'éclate. Et du coup, on va pouvoir aller voir le centre névralgique de la future irrigation. La petite mare.
Centre névralgique.
Bah, je sais pas comment on peut dire ça, mais... Un petit plan d'eau qui doit faire, je sais pas, peut-être 40 mètres cubes à la fin.
D'accord.
Ne tombe pas.
Oui, non. Tant qu'à faire.
Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir pomper à la rivière, remplir ce plan d'eau-là. Ouais. Et d'ici, je vais pouvoir mettre une pompe électrique qui pourra m'envoyer à la pression que je veux.
Et tu comptes bâcher le foin ou quelque chose comme ça?
Ouais. Il y aura du grillage d'abord pour éviter qu'il y ait les rats qui viennent percer la bâche par en dessous. Mm-hmm. Il y aura du géotextile pour empêcher que les racines viennent percer la bâche. Et il y aura la bâche.
Et du grillage, genre un grillage à poule?
Ouais, du grillage très fin. Là.
Bah, c'est un investissement quand même. Tu veux l'avoir pour quelques milliers d'euros là?
Ah oui.
Peux avoir des aides pour ça?
Non.
Non.
Non, moi je suis cotisant solidaire, donc j'ai pas le droit aux aides.
Tu es cotisant solidaire, c'est-à-dire?
C'est le statut social qui fait que je suis pas reconnu comme un agriculteur. Hein. Je suis pas un exploitant, comment on dit ça? Je suis pas un exploitant agricole, je suis pas un agriculteur à titre principal ou secondaire. Donc je suis trop petit pour être considéré comme, comme un vrai.
D'accord.
Et donc ce qui fait que j'ai pas le droit aux aides, c'est ce qui fait que voilà, ce qui fait aussi que mes cotisations sociales sont moindres. Mmh. Mais par contre, ça veut dire que je cotise pas pour la retraite, je cotise pas pour le chômage, mmh. je cotise pas pour, pour plein de choses quoi.
D'accord.
Donc
t'as le minimum genre la sécu
J'ai la sécu parce que je suis à la, j'ai la sécu et je suis à la CMU à côté et voilà. Mmh.
D'accord. Bon, tu m'as fait la visite complète?
Bah, je crois qu'on a fait tout le tour. Hein.
Bon, c'est super. Bon, ben, merci beaucoup, Simon.
Eh ben, merci à toi.
D'avoir pris ce temps, de m'avoir fait la belle visite.
Merci à toi.
Et écoute, je te souhaite de bonnes choses pour le futur.
Bah, ça pourrait être que mieux. Hein.
Ben, ouais. Merci beaucoup. Je vais l'arrêter.
Ouais.
Merci à Simon de nous avoir reçus et on lâche rien. Parole rurale est diffusée le mardi à 8h15, le jeudi à 18h et le dimanche à 14h. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.